réalisés uniquement par des personnels non grévistes.
Qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue. Les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Bonsoir.
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 C'est l'heure du Canu Info. Nous sommes le mercredi 28 mai 2014 et il est 19h passé de 5 minutes.
Alors, on va commencer par une première information, une brève sur une personne qui a été relaxée pour avoir agressé des Roms.
Ensuite, on parlera des camps de Calais qui ont été évacués pour raison de cas de gale.
On poursuivra avec une info sur la prostitution où la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'est prononcée contre la pénalisation des clients.
Ensuite, on aura la chronique de Laurent Delabouze.
Et on apprendra des choses sur les tarifs de la piscine du Rhône.
Ensuite, on passera à la chronique Il faut que ça se sache.
On poursuivra par un agenda.
Et on finira par la météo. Alors, vous vous souvenez peut-être, on en avait pas mal parlé, d'un type qui avait balancé de l'acide sur des Roms, c'était à Paris, et c'était des familles qui vivaient dans son quartier, dehors. Du coup, ce gars-là, il a fini par être retrouvé et est passé devant le tribunal. Alors, pendant l'audience, après un long débat pour déterminer si le liquide balancé était de l'acide ou de l'eau de Javel mélangée à du savon noir comme lui le prétendait, sauf que dans tout ça, les gens témoignaient que leur matelas avait été rongé quand même par le liquide. Donc on voit mal comment de l'eau de Javel et du savon noir peut faire ça. Voilà, ce polytechnicien s'est défendu d'avoir voulu agresser les familles et a choisi comme axe de défense l'écologie. Alors ça peut surprendre, hein, mais oui, il a déclaré pendant son procès, en parlant des familles, « Ce qui me pose problème avant tout, c'est que tous ne sont pas respectueux de l'environnement. »
Quoi ?
Voilà.
C'est qui le gars ? T'as dit c'est un politicien ?
Un polytechnicien.
Ah, ok.
Et donc peut-être nous avons-nous affaire à un militant écologiste raciste, extrémiste, on ne sait pas. Donc voilà, malgré le fait que ce type ait utilisé des menaces sur les familles en leur jetant un liquide pour les intimider et les faire quitter leur matelas installé sur le trottoir, le tribunal a décidé, dans sa grande clémence que bénéficient toujours les mêmes, on le rappelle encore une fois, le prévenu est polytechnicien, il a tout simplement été relaxé. Donc voilà, hein, on a l'habitude de la clémence des jugements, mais... Donc voilà, et c'est vrai que le juge quand même devait très certainement partager les opinions du prévenu, car quand même une étude a été faite en France, 2 personnes sur 3 ont un sentiment défavorable à l'égard des Roms, sentiment bien partagé entre les gens qui se déclarent de gauche ou de droite. Et oui, car 56% des personnes se déclarant idéologiquement de gauche ont une vision négative des Roms, contre 76% chez les gens de droite. Et au niveau européen, ce sont encore les Roms qui sont les premières victimes de racisme, bien loin devant les musulmans et les juifs. Par exemple, en France, c'est 66% de sentiments négatifs à l'égard des Roms, contre 27% pour les musulmans et 10% pour les juifs.
Et on va parler de Calais, on va prendre le temps de revenir là-dessus. Les médias en parlent aujourd'hui assez exceptionnellement. Et donc pourquoi ? Ben parce qu'il y a une armada sanitaire qui a été mise en place depuis hier soir à Calais, en présence donc de nombreux flics. Et les raisons sanitaires prétextent à la destruction des camps. Donc c'est 200 flics qui sont mobilisés. Donc voilà où l'argent de l'État passe en période d'austérité. Donc avec cette expulsion forcée, Bernard Cazeneuve, qui est ministre de l'Intérieur, entend sans doute ainsi s'inscrire dans la lignée de ses prédécesseurs. Rappelons Nicolas Sarkozy avec sa fermeture de Sangatte en 2002, Éric Besson avec son évacuation théâtrale et musclée de la jungle des Pachtounes en 2009. Voilà, donc PS, UMP, même combat. Donc je reviens un peu en arrière, donc c'est mercredi dernier, il y a une semaine, le préfet du Pas-de-Calais organisait une conférence de presse pour annoncer l'évacuation donc de trois campements d'exilés. Cette décision d'expulsion, qui prend donc prétexte d'une épidémie de gale, fait suite en réalité à la pression de la mairie de Calais pour que les camps où s'abritent les migrants donnerait une mauvaise image de la ville. Parce que la mairesse, dont on a déjà parlé, est très attentive à l'image de Calais. Donc au départ, c'est le conseiller régional qui est propriétaire des terrains, donc ça serait à eux que, au départ, la décision pourrait partir, avait annoncé eux qu'ils ne demandaient pas l'expulsion tant qu'il n'y aurait pas de solution trouvée pour les personnes qui y habitaient. Et parce que surtout la situation découle du traité du Touquet et qui les oblige à ne pas expulser s'il n'y a pas de solution derrière pour les personnes. Donc ça les embêtait un peu, le conseiller régional, de l'expulser. Mais comme eux souhaitaient aussi l'expulsion, bah c'est la maire de Calais qui leur a rendu service et qui a demandé publiquement donc cette expulsion. Ça c'était 10 jours avant les européennes, ça faisait un petit coup pour encourager les gens à voter extrême droite, ce qui a en vrai plutôt bien marché. Et elle a aussi décidé pendant cette conférence de presse qu'elle avait tenue, elle a décidé de faire une proposition de loi pour modifier les 48 heures. Vous voyez ce truc qui permet de squatter, sauf que dans la loi en fait et dans le droit français ça existe pas. Mais donc, elle a fait une sorte de truc pour dire... et elle va demander apparemment de faire un changement au niveau légal, législatif, pour qu'il y ait un changement en termes de conditions de squat en France. Elle a l'air très, très remontée. Mais voilà, ça, c'était une parenthèse. Quoi dire ? Donc... ce qui se passe là à Calais, c'est que depuis donc mercredi dernier, les associations apprennent la majorité des détails donc des heures et des jours d'expulsion par la presse, puisqu'il n'y a aucun dialogue possible avec les autorités. Sachant que, pareil, dans la loi, il y a des obligations de relogement derrière. Du coup, les associations qui aident et prennent part à la vie des migrants à Calais devraient être un peu renseignées. Puisque devrait être faire part à
des débats, des décisions, devrait participer
Bah, pas aux débats et décisions, mais juste puisqu'il devrait y avoir des solutions trouvées, de participer à juste trouver des solutions et des relogements. Et donc je vais parler un peu des trois campements. Donc c'est donc le campement un campement qui s'était progressivement installé en septembre 2013. Situé suite à la série d'expulsions qui avait commencé le 5 septembre par le squad de la rue Mouron. Et c'est vraiment devenu un campement lorsque les exilés syriens ont mis fin à leur mouvement dans le port de Calais le 4 octobre et se sont installés là. Je fais des petits rappels, même si c'est des choses dont on avait déjà parlé. Globalement, en fait, ces trois campements, ça représente 600 personnes qui sont concernées. Et ces exilés sont de plus en plus nombreux dans les camps, ce qui inquiétait donc la mairie. Et notamment, c'est suite à plein d'expulsions, dont la dernière, celle du campement des Soudanais le 11 avril dernier. Donc il y a ce campement-là qui était lié aux expulsions de septembre, la place Henri Barbusse qui est juste à côté de ce campement, où très rapidement les tentes se sont installées, les tentes sont devenues des cabanes, et c'est beaucoup des Syriens, des Pakistanais et des Afghans qui y habitent. Et le campement du bassin de la Batellerie qui s'est constitué suite à l'expulsion du squat de la rue Neuve qui habitait environ 70 personnes. Et le nombre d'habitants augmente rapidement depuis quelques semaines, et avec notamment l'arrivée de nombreux mineurs. Et un centre social et deux autres squats sont expulsables à partir du 30 mai. Et donc, ça fera 800 personnes qui vont se retrouver à la rue prochainement à Calais. Alors, je vais faire un petit rappel qu'en août 2009, lorsque Éric Besson était ministre de l'Immigration, qui préparait la destruction de la jungle de Calais à des autres campements et des autres campements du Calaisis, il y avait eu pareil, une opération de traitement de la gale à l'intention des exilés qui avait été mise en place à Calais. Donc les opérations sanitaires sont plus propres, entre guillemets, que les opérations de purement destruction des squats et des campements. Donc ce qui a été fait, c'était un examen médical qui était suivi de l'administration de traitement, d'une décontamination et d'une douche avec distribution de vêtements propres. Donc cette opération avait duré à peu près 2 semaines. Et voilà. Mais les migrantes étaient au moins vues par un médecin et accueillies dans un espace garantissant un minimum d'intimité et de confidentialité. Pourquoi je redis les conditions de 2009, c'est que je vais vous parler des conditions d'hier et du coup d'aujourd'hui, d'administration des traitements, pour montrer à quel point les gens n'ont rien à foutre de la vie des migrants et du coup comment c'est fait. Donc elle a commencé hier soir par l'agence régionale de santé, l'ARS. Comment ça s'est passé? Donc elle a installé son dispositif sous surveillance policière au lieu de distribution des repas au moment des repas. Donc au milieu de la cour bitumée bordée de auvents sont installées une rangée de chaises, une rangée de tables. Les soignants volontaires s'installent d'un côté des tables côté chaises des migrants, et de nombreux médias sont là, photographes, équipes de télévision, journalistes sont présents. Donc pour recevoir le traitement, vous devez vous présenter aux tables, au vu de tout le monde, sous l'objectif des caméras et des appareils photos. Aucune visite médicale n'est prévue, aucune confidentialité, ni aucune intimité, ni vêtements propres. Donc c'est ça les conditions qui ont été proposées hier. Donc, quasiment aucun migrant n'a accepté de prendre le traitement dans ces conditions. Alors, ils se sont sentis emmerdés, donc les volontaires de l'ARS sont allés dans la foule de la distribution des repas, sachant que la distribution des repas est un moment, le moment le plus tendu de toute la journée à Calais, parce que déjà la manière dont distribuer les repas, c'est d'abord les personnes malades, ensuite les enfants, ensuite les femmes, et du coup c'est un climat super tendu. Du coup ils sont passés en disant qui veut le traitement, avec un peu des traducteurs et des traductrices, mais d'une manière super merdique. Du coup ça fait que très peu de gens ont pris les médicaments. Du coup aujourd'hui ils voulaient emmener dans des cars les gens pour aller prendre des douches à un autre endroit, les gens flippaient trop de d'être expulsés et du coup ça a fait des situations extrêmement extrêmement tendues. Et donc pour info, il y a un rassemblement contre ces mesures violentes et inutiles qui va être organisé donc ce samedi 31 mai. C'est par des assos et citoyennes de la ville de Calais. Info que j'ai trouvé donc sur ce blog qui s'appelle Passeurs d'hospitalité. Ce que demandent les assos, c'est que le traitement de la gale aurait dû être précédé d'un diagnostic lieu par lieu, plutôt que ce truc fourre-tout qui a été organisé. Et l'opération, pour être un succès, aurait dû se dérouler dans un climat de sérénité et de confiance. Donc pas dans le cadre d'une expulsion, ni d'un repas, ni en présence policière et médiatique. Et de même qu'elle disperse les personnes atteintes de la gale, les autorités éclatent les problèmes sans les résoudre. Il aurait été possible, dès l'installation des campements, de mettre en place une démarche progressive pour créer des conditions dignes d'accueil. C'est ce que demandent des assos depuis des années et des années. À défaut et dans l'urgence, il reste la possibilité de trouver un des terrains pour une installation provisoire avec un minimum de conditions d'hygiène mises en place. Et du coup, là, c'est ce que demandent un peu peau de chagrin les associations pour pas que les gens soient juste virés de Calais, simplement. Et en attendant, donc pour finir, la question que poussent tous les exilés, et après, je vais dormir où ce soir ?
Alors, le gouvernement a été désavoué par la Commission nationale consultative des droits de l'homme par rapport à son positionnement sur la prostitution. Et donc, en effet, là, il y a eu à l'automne dernier, il y a eu de vifs débats autour de la loi pour la lutte contre le système prostitutionnel à l'Assemblée nationale. Et finalement, l'Assemblée avait adopté le projet de loi. Et en fait, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est en gros chargée d'éclairer l'action du gouvernement ou du Parlement dans le domaine des droits de l'homme, du coup, la CNCDH s'était auto-saisie de la question. Pardon, excusez-moi. Donc, parce qu'elle peut s'auto-saisir, voilà. Donc, en gros, elle a auditionné de nombreux acteurs de terrain, dont des assos comme la Ligue des droits de l'homme, ou des assos de santé comme Médecins du Monde, ou des assos de lutte contre le sida comme AIDE, et puis des assos aussi qui accompagnent des personnes prostituées et des travailleuses du sexe, pour recueillir un petit peu les différentes positions sur cette question. Et je rappelle juste que la loi, elle est très défendue par Najat Vallaud-Belkacem. Et que un axe important de cette loi, c'est de punir l'achat d'actes sexuels, donc de pénaliser les clients des prostituées. Et donc, après l'audition de tous ces acteurs, la Commission nationale des droits de l'homme a fini par désavouer une partie de la loi. Donc, elle a rendu son avis public lundi, il y a deux jours, là, le 26 mai, et a détaillé son avis en trois points. Donc, d'abord, elle souligne l'aspect légal, en fait, de la prostitution choisie, et elle se prononce contre la pénalisation des clients. Et du coup, ce qu'elle dit par rapport à la pénalisation des clients, c'est que celle-ci relèguerait les personnes prostituées vers des lieux plus reculés et plus dangereux. Le pouvoir de négociation avec les clients et de choix du client serait diminué. Les acteurs médico-sociaux auraient plus de difficultés à accéder aux personnes. Et ils disent aussi que si une telle disposition est appliquée, elle induirait des stratégies de contournement qui ne seraient pas sans grave incidence sur la santé et les droits des personnes prostituées. Par rapport au racolage, par rapport au délit de racolage public qui a été mis en place en 2003 et qui n'a toujours pas été abrogé malgré tout ce qui a été mis en place, etc., la Commission dit que cette tendance à l'invisibilité de la prostitution a contribué à dégrader l'état de santé des personnes prostituées et les conditions d'exercice de leur activité. Elle a accru la relégation et l'isolement des personnes en raison de la clandestinité qu'elle a induite et les a rendues plus vulnérables face aux violences. Donc c'est une position assez ferme par rapport au racolage. Et du coup, le deuxième axe de l'avis de la commission, c'est de demander un renforcement pour l'accès aux droits des prostituées et des travailleuses du sexe. Et la commission, elle pointe le retard qui a été pris par la France dans l'accompagnement et le suivi des prostituées afin de leur assurer l'accès effectif aux droits. Et en fait, la commission regrette aussi que la proposition de loi qui est discutée en ce moment au Parlement, elle contienne pas plus de dispositions qui garantissent aux personnes des droits identiques à ceux du reste de la population. Et enfin, le dernier axe de l'avis de la commission, c'est de demander un renforcement du dispositif pénal et d'accompagnement pour les victimes de traite et d'exploitation. Et en fait... ce qu'elle dit là-dessus, c'est que j'ai perdu mon petit morceau. Bon, j'ai pas fait ça quand même. Mais ah oui, parce qu'en fait, elle dit que le souci, c'est de voir les problématiques de traite et d'exploitation uniquement dans le cadre de la prostitution. Et en fait, si on était un petit peu cohérent, on prendrait en compte la question de l'exploitation et du travail forcé dans l'ensemble des secteurs économiques concernés. Et pas uniquement comme une espèce de prétexte qui est utilisé ici pour pénaliser le service sexuel, en fait, parce qu'il y a plein d'autres secteurs qui sont concernés, dont celui du travail domestique, en fait. Et donc, la commission, la CNCDH, elle insiste sur la nécessité d'étendre ces mesures à toute forme d'exploitation domestique, économique et non uniquement sexuelle. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, bon, c'est comment s'est passé le vote dans la commission des droits de l'homme. Donc le vote, il a été a recueilli une nette majorité, mais les positions des membres de la commission, ils n'ont pas été unanimes. Et en fait, il y a quand même 20 membres qui se sont exprimés contre ce texte, 16 pour et 4 qui sont abstenus. Ah non, je pense qu'ils sont trompés, ça doit être 20 membres pour ce texte. Et du coup, ça fait quand même pas mal d'abstentions et de refus de ce texte. Et il y a un membre de la commission des droits de l'homme qui dit que d'habitude, les votes sur des avis sont beaucoup moins serrés. Donc on voit que même dans une instance comme ça, les gens sont super partagés encore par ces éternelles questions sur la prostitution, c'est mal, c'est une violence, etc. Donc en fait, à quoi il sert cet avis? Il reste consultatif, parce qu'évidemment, la Commission nationale des droits de l'homme, elle peut pas faire des lois ou faire des décisions comme ça. Et du coup, ça veut dire que les sénateurs comme les députés, ils peuvent complètement se torcher avec et ne pas en tenir compte. Mais la Commission dit que leur voix a quand même du poids et qu'elle est souvent écoutée. Et voilà. Et donc, ce qui se passe, justement, ça, c'est un petit peu une aubaine pour les assos qui sont contre cette loi qui vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. Et il y a eu un communiqué de presse qui a été fait par un ensemble d'associations, parmi lesquelles il y a des assos de lutte contre le sida comme ACT UP Paris ou AIDE, des assos qui accompagnent des travailleuses du sexe comme Accept ST, les Amis du Bus des Femmes à Paris, Autre Regard à Marseille, Kabiria à Lyon, Griselidis à Toulouse, le STRAS et le collectif Droit et Prostitution qui regroupe pas mal d'assos. Et puis aussi, les signataires, c'est aussi Médecins du Monde, un petit peu tous les gens qui sont mobilisés sur cette question. Et donc dans leur communiqué de presse, ils expliquent un petit peu le positionnement de la commission. Et en fait, ils tiennent à dire qu'ils saluent les recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en faveur de l'application du droit commun et contre les dispositifs spécifiques à la prostitution, et qu'ils encouragent vivement les parlementaires à prendre en compte cet avis dans leurs réflexions et à rejeter eux et elles aussi la pénalisation des clients et le délit de racolage public. Voilà donc les dernières nouvelles, sachant que là, il y a encore des auditions au Sénat en ce moment, il y a encore des auditions d'associations, et qu'on suppose qu'il n'y aura rien pendant l'été, et que la loi, elle ne devrait pas être débattue à nouveau avant septembre ou octobre. Voilà. Par rapport à tout ça, et s'il y a des personnes qui ont envie de réfléchir un petit peu, des Lyonnais, des Lyonnaises qui ont envie de réfléchir un petit peu à ces questions, il y a un débat qui est proposé par le planning familial du Rhône, donc je fais un peu une petite incise avant l'agenda, mais je le rappellerai en fin de, dans la fin de cette édition du Canu Info. Il y a un débat qui se passe le mardi 3 juin à 19h30 à la MJC de Montplaisir. Donc c'est avenue des Frères Lumière à Lyon. C'est organisé par le planning familial et le titre de cette soirée, c'est « Prostitution, quels enjeux pour les féministes, quelle réalité sur le terrain ?» Et en fait, le planning a invité un sociologue qui s'appelle Lilian Mathieu et une travailleuse sociale de Médecins du Monde qui s'appelle Laure Couret. Et en fait, l'asso, le planning a envie de que les gens qui participent réfléchissent un peu sur quels arguments se fondent la division du mouvement féministe par rapport à la prostitution, en fait. Donc, poser des questions sur est-ce que toute forme de prostitution, on peut l'assimiler à une violence ? Ou qu'est-ce que nos positionnements sur la prostitution, ils disent des représentations qu'on a sur la sexualité des hommes et la sexualité des femmes ? Ils ont aussi envie d'aborder pourquoi les assos de santé communautaire qui bossent avec des travailleuses du sexe se sont prononcées contre le projet de loi. Et puis, ils veulent s'intéresser aussi à ce que vivent les personnes finalement qui vendent des services sexuels aujourd'hui. Donc, il y aura des travailleuses du sexe pendant ce débat qui pourront s'exprimer sur ce qu'elles vivent. Et du coup, une des questions que le planning a envie de poser, c'est comment prendre en compte dans les luttes la parole des personnes qui sont concernées par le travail du sexe. Et puis aussi, ils ont envie d'aborder les effets des politiques actuelles sur les migrants qui ont recours à la prostitution. Donc voilà, ça a l'air d'être un débat assez vaste. Et ça se passe le 3 juin à la MJC de Montplaisir.
Et maintenant, en direct et en mégahertz, voici la chronique de Laurent Delabouze.
Bonsoir. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des élections européennes, même si pour moi le résultat est quelque chose de positif. En effet, ce n'est pas la peste bleu marine ou la peste brune UMP qui a gagné. Non, c'est mon parti qui a remporté la victoire. Eh oui, c'est l'abstention qui, en France en ce moment, réalise les plus gros scores électoraux. Quant aux autres, les moutons démocrates, peut-être qu'après avoir choisi le plus méchant et le plus fourbe de leurs bourreaux, ils finiront par comprendre que ce système les égorge. Aujourd'hui, je vais m'intéresser, une fois n'est pas coutume, à l'une des affaires crapuleuses qui rongent l'UMP en ce moment. Et plus particulièrement à Jérôme Lavrieux, le gendre idéal qui a ému toute la France lorsque lundi soir, submergé par l'émotion, il pleurait sur le plateau de BFM TV. Après que l'avocat de la société Big Magouille, ou Big Malion, c'est selon, ait révélé qu'il y a bien eu surfacturation pour le compte de l'UMP, il fallait bien envoyer quelqu'un s'expliquer. C'est donc le directeur de cabinet d'Alcopé qui s'y est collé. C'est lui, Jérôme Lavrieux, visage de jeune homme aux traits angéliques, qui a réussi sur le plateau de BFM une séquence émotion digne des meilleures téléréalités. Dès les premières questions de la journaliste, il n'a pas hésité à se débarrasser de toute fausse pudeur. Le regard triste, les yeux humides et la voix tremblante, il a tout de suite révélé qu'il y avait des transactions financières douteuses, mais qu'il n'avait pas osé arrêter le train en marche, et que bien sûr, Copé n'était au courant de rien.
Ah.
Et ça, Copé l'a effectivement dit tout de suite, moi, j'étais pas au courant. Vu que c'est le grand déballage en ce moment, la réalité va lui faire mal. Quand il va se réveiller un matin et apprendre toutes les magouilles dont il est le cendre, et qu'en plus, il est chauve avec une tête de con, ça va être dur à encaisser. Mais Jérôme Lavrieux ne s'est pas arrêté là. Quand la journaliste lui a demandé comment il voyait demain, il a répondu. J'aimerais bien pouvoir dormir.
Oh là là.
Très logiquement, alors qu'il était sur le point de craquer, la journaliste lui a ensuite lancé « Vous allez arrêter la politique ?» Et là, sa réponse a été grandiose, digne d'un mélodrame entre Churchill et Molière, claire, sans ambiguïté et submergente de tristesse. Je vous la livre ici. « Vous savez, moi, je ne me suis pas engagé pour faire fortune. » Il fait une pause, œil humide, chat dans la gorge. « J'ai une maison !» Encore une pause, le regard encore plus triste. C'est mon seul bien. Pause encore, la voix tressaute. J'ai acheté il y a 6 ans. Nouvelle pause, reprise de souffle, les larmes ne sont pas loin. Que je retape tous les week-ends. Il s'arrête encore, le visage décomposé, mais reprend. Avec mon père. Il s'arrête encore, et c'est au prix de 1000 efforts qu'il ne s'effondre pas sur la table et enchaîne. À la campagne. Et la dernière pause avant le bouquet final. La voix devient proche de la plainte, le corps est voûté, le souffle court, haletant, les lunettes glissent, le visage est complètement défait. Il me reste 14 ans de crédit à rembourser. Voilà. Après ça, la journaliste n'a pas osé demander si ça voulait dire qu'il arrêtait ou pas. Indice peut-être. On se rappelle que Juppé avait joué la même comédie en 2004 sur l'affaire des emplois fictifs. Il redevient aujourd'hui chef de l'UMP. Mais qui est-il, ce Jérôme Lavrieux? D'où vient-il? Comment un homme qui a l'air si honnête, si bon et si fragile a-t-il pu en arriver là? Eh bien, je vais vous dire, Jérôme Lavrieux s'est engagé au RPR en 89, dégoûté de voir sa ville tomber aux mains des communistes. Repéré par Patrick Buisson, celui qui mélange les couleurs bleues et bleu marine, il intègre la cellule Riposte, créée par Hortefeux pour contrer la gauche. Surnommé Dark Vador au sein même de l'UMP, son rôle est, d'après ses collègues, d'appuyer là où ça fait mal, de constituer des dossiers sur tout le monde et de se servir de tout ce qu'il a à sa disposition le moment venu. Il devient ensuite directeur adjoint de la dernière campagne présidentielle de Sarkozy, en charge de la logistique et l'organisation des meetings. Vous savez, ce où la moindre chaise en plastique coûtait 20 000 euros. Déjà grand ami de Copé, il profitait alors de sa position pour rigoler un peu avec François Fillon. D'après les personnes présentes pendant toute la campagne, il s'amusait à lancer la Marseillaise le plus rapidement possible à chaque fin de meeting, dans l'espoir que Fillon, pris de court, n'ait pas le temps de rejoindre le devant de la scène pour les photos. Et puis, au meeting de la Concorde de l'entre-deux-tours, il avait ordonné à la régie d'envoyer la musique d'entrée de Sarkozy, alors que le Premier ministre n'avait pas fini son discours. Bassesse qu'il reconnaissait dans un sourire narquois. C'était un ordre de Sarko qui voulait parler avant Hollande, en meeting au même moment. Ce n'est quand même pas de ma faute. Enfin, lors de son obtention de la Légion d'honneur, Sarkozy disait de lui dans son discours « Voilà un homme qui a le talent de ne pas embêter les personnes pour qui il travaille avec des problèmes qu'elles n'ont pas à connaître. »
Bon. Waouh, waouh.
Mais avec toutes ces affaires, moi, il y a quelque chose qui commence à me travailler et à me faire un peu flipper. Avec les multiples perquisitions au sein de l'UMP, toutes les enquêtes sur les multiples affaires de Sarkozy, celles de Bernard Tapie, les gardes à vue des Balkany, de Claude Guéant, etc., etc. Y aura-t-il encore des flics de disponibles pour arrêter les pauvres? Bon, pour finir, certaines personnes voulaient que je fasse une conne bendite. Parce qu'après avoir annoncé qu'il arrêtait la politique et que Europe Écologie Les Verts devrait fonctionner sans lui, il s'est encore lancé dans des comparaisons du style « Un sauveur peut-être, mais je ne suis pas Dieu non plus ». Ou alors « Même quand Zidane a quitté l'équipe de France, celle-ci a continué à fonctionner ». Mais moi, j'en ai marre de Cohn-Bendit. Ça fait 40 ans qu'il brasse du vent. Il a toujours pas réussi à faire tourner une éolienne.
Et donc, on revient à Lyon et on va parler des tarifs de la piscine du Rhône qui vont augmenter. Et ouais, parce que la piscine du Rhône, en vrai, eh ben, l'été, c'est quoi? C'est un lieu de squat. Parce que quand on rouille l'été à Lyon, ben, on est super content d'aller à la piscine. C'est un lieu qui coûte pas trop trop cher. Et qui reste quand même là quand on ne peut pas partir en vacances. Sauf que là, le conseil municipal du 26 mai a débattu du tarif de la piscine qui s'appelle maintenant le Centre Nautique du Rhône. Et pourquoi ça s'appelle le Centre Nautique du Rhône? Parce que le coût de l'entrée va passer de 3,40 €. Donc ça, c'est tarif plein. Hein, parce que quand il y a aussi pas mal de tarifs réduits où ça revient à, je sais plus, mais à 1,30 €, je crois, ou un truc comme ça, la place. Et là, c'est passé de 3,40 € à 8 €. Donc c'est énorme l'augmentation. Ça fait une augmentation de combien? De
135%.
135%, quoi. Et ça, dès le 17 juin. Donc, gloups, ça fait mal. Mais Guy Carazol donc nous explique cette augmentation. Guy Carazol, il est socialiste et donc il a voté pour cette réforme en tant que socialiste et du coup bah faisant partie de la majorité de la ville de Lyon, puisqu'on rappelle que Colomb est PS. Et donc cette augmentation par la qualité, la quantité des infrastructures du centre nautique rénové. Donc, selon l'équipe exécutive, le prix d'entrée du site des berges ne peut pas être le même que celui des autres piscines municipales, tant son offre est supérieure. Donc, bassin à banquette à bulles, rivière, jet d'eau, pantaglisse. Donc, ça, c'est toboggan.
C'est un toboggan.
Les animations maintenant qui vont avoir lieu. Bah, pourtant, l'année dernière, moi, j'y suis allée à cette piscine. Ils n'avaient pas encore refait le grand bassin, mais ils avaient déjà fait tous les piscines à bulles, toboggans et les trucs là pour les tout petits qui étaient très, très rigolos, là, les moulins où il y a l'eau qui tourne et tout, dedans. Et bah, ils ne l'avaient pas augmenté. Hein. Et ils ne l'avaient pas augmenté. Moi, je me suis dit, ah bah. Tiens, là, ils l'augmentent cette année. L'année dernière, ils nous en ont bien fait profiter. Ils nous ont bien alléché, Et ben, c'est pour bien nous faire sentir le goût du manque cette année. Mais voilà, une manière surtout au cœur de Lyon de choisir la clientèle. Et ben oui, puisque comme tout le monde y vient depuis toujours à cette piscine, et ben ça a toujours dérangé les plus riches, quoi, parce que donc cette piscine, c'est quand même pas forcément facile d'y rentrer. Il y a les vigiles et beaucoup, énormément de vigiles. Je sais pas si vous y êtes déjà allés, mais c'est hallucinant. Donc les conditions drastiques d'entrée, le moule bite, le maillot, tous les maillots, que ce soit gars ou meuf, vraiment c'est strictement surveillé. Pas de t-shirt, pour se baigner, etc., etc. Et il y a les exclusions aléatoires, donc beaucoup de gens qui ont des comportements dits pas acceptables à la piscine sont virés, et les bassins très surveillés. Et ben ça leur suffisait pas à limiter le nombre de pauvres, de racailles, de lascars qui viennent passer leur été à la piscine. 8 €, c'est super, ça rend inaccessible pour toute une partie des habitants de Lyon et des habitants du quartier de la Guillotière où est cette piscine. Donc, les socialistes se félicitent, et c'est vrai, hein, ils l'ont dit, cela va permettre, selon eux, de réduire le nombre d'incivilités commis à la piscine du Rhône. Et oui, parce qu'on sait bien que les incivilités, c'est les pauvres qui les commettent.
Bah oui, c'est commis uniquement par les pauvres. On l'a vu tout à l'heure avec la brève de notre ami, celui qui a jeté de l'acide,
voilà.
Polytechnicien.
Et aussi les gens qui frouillent pour payer moins d'impôts, c'est sûr. Ça, c'est pas des incivilités. Bah, en tout cas, on ne peut pas les produire à la piscine. Ça, c'est plus compliqué. Donc, moi, je pense que, et ce qui est dit par beaucoup, beaucoup de Lyonnais en ce moment, c'est que les prix d'entrée des établissements d'une même commune devraient être tous les mêmes. Sauf que là, ça va plus appeler la piscine municipale. Mais centre nautique du Rhône, donc tout va bien. Mais il nous rassure. Il nous rassure parce que il y a un amendement qui a été déposé puis suite au râlage de pas mal de gens et qui a été adopté par les socialistes donc hier pour faire bénéficier aux chômeurs d'un tarif réduit de
7,20 €.
Non, un peu moins, 5,50 €. Mais 5,50 € par rapport au prix chômeur d'avant qui était 1,50 €, ça fait la même augmentation de 135%. J'ai pas calculé, mais vous voyez, c'est un peu.
Ça m'a l'air même plus, moi.
Oui, c'est ça. Donc vraiment, merci de votre clémence, chers socialistes. Quelle générosité. Et ils n'avaient pas non plus inclus certaines propositions. Ah, parce que au départ, les personnes handicapées pouvaient bénéficier gratuitement des piscines et finalement, ils bénéficieront du tarif réduit.
C'est peut-être parce que maintenant, ils l'ont rendu accessible au fauteuil roulant, du coup. Comme maintenant, c'est accessible, ils vont devoir payer.
Rappelons-nous les grands escaliers. Parce que c'était pas accessible. Déjà, quand t'as une poussette et que t'y vas avec des mômes, c'est super galère. Alors, c'était vraiment inaccessible aux personnes handicapées. Donc, effectivement, comme tu dis, je pense, comme c'est devenu accessible, eh ben, c'est plus cher. Il faut faire un petit effort. Bon, ben voilà. Nous, il nous reste quoi pour cet été? Eh ben, il nous reste le parc de Miribel-Jonage. Avec ses puces d'eau, ses algues et l'odeur de vase. Puis c'est gratuit. Enfin, une partie, quoi.
Chut, écoutez.
À tout moment, venir te prendre pour le moment, tu es à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
que c'est ça.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Alors, oui, alors on va rester du côté de Lyon, où le tribunal a condamné une nouvelle fois un migrant qui était mineur. Alors, il l'avait déjà fait il y a quelques semaines avec Al-Kassim, élève à Décines et qui avait été condamné à 4 mois de prison ferme, 5 ans d'interdiction du territoire et une grosse amende, car le juge a décidé qu'il avait triché sur son âge suite à un test osseux. Là, c'est Narek, élève au lycée Edmond Labbé à Oullin, qui a été jugé en comparution immédiate lundi 18 mai après 48 heures de garde à vue. Et il a été condamné à 2 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, ça veut dire qu'il allait directement à la case prison. Le 14 mai, pour un petit retour sur comment ça s'est passé, il reçoit une convoque de la PAF, qui est la police aux frontières, pour effectuer ces saloperies de tests osseux qui sont censés déterminer l'âge d'une personne. Et vous allez voir la précision de ces tests. Pour Narek, les experts, c'est des experts qui font ça, ont conclu qu'il aurait... Alors les tests osseux, c'est ils testent par rapport soit aux os de la main, soit au niveau du col du fémur. Et du coup, ils ont conclu qu'il aurait entre 19,7 ans et, alors on se dit attention, putain, précision de pointe, 29 ans. On se demande pourquoi le virgule 7 avant, mais voilà, en tout cas, ils ont bien fait en sorte qu'il ait plus de 18 ans, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de déterminer qu'il était majeur, alors que lui se déclare comme mineur. S'ajoute à ça les voitures du Conseil Général qui sont venues en rajouter une couche pour réclamer 107 000 euros à Narek pour escroquerie, car il avait été pris en charge en tant que mineur migrant. Alors ça, c'est vraiment... Enfin,
c'est vraiment des ordures.
Ouais, bah, quoi.
Et oui, ils avaient fait le même coup, du coup, à Al-Kassim, là, quand je disais qu'il avait une grosse amende, c'était le Conseil Général. Bon, alors je sais pas si le Conseil Général espère un jour voir 1 euro de cette somme aller dans leur poche. En tout cas, on n'espère pas. Mais on sait très bien que, de toute façon, Narek n'aura jamais 107 000 euros... un mois à filer à ces salopards.
Surtout qu'à tout casser, ils ont dû lui filer sur plusieurs années 10 000 balles, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est n'importe quoi.
Et ouais, en gros, je pense que dans les 107 000 euros, c'est pris en charge combien coûte une personne, parce que si t'es dans un centre, machin, du coup... enfin bref. En tout cas, ce qui était assez chouette, c'est qu'il y avait plus de 100 de ses camarades de classe, et il me semble des lycées voisins aussi qui sont venus le soutenir, lui... Dans son procès. Mais voilà, le procureur avait pourtant réclamé 6 mois avec sursis et le juge s'est prononcé pour 2 mois ferme avec mandat de dépôt.
Il faut que ça se sache.
Encore une mauvaise nouvelle à Calais. C'était vendredi 23 mai, un jeune Soudanais est mort écrasé par un camion. Il avait 18 ans. Et donc, bah, j'arrête de rappeler chaque fois comment les gens sont tués, c'est pour passer en Angleterre. Et le jeudi 22 mai, c'était un Éthiopien qui voulait s'acheter une chambre à air de voiture pour s'en servir de bouée et entrer dans le port à la nage. Donc, toujours, des personnes prêtes à prendre beaucoup de risques pour se rendre en Angleterre et pour acheter à un quotidien souvent invivable à Calais, qui se traduit forcément par des accidents graves et par des morts.
Il faut que ça se sache.
Et on va faire un tour du côté de l'Italie. C'est une tradition dans ce faut que ça se sache. Ça s'est passé mercredi dernier au CIE de Caltanissetta. Une quinzaine de personnes ont tenté de s'évader du CIE. Ils étaient pourtant bien organisés avec un groupe qui a essayé d'escalader les grilles. Et pendant ce temps-là, un autre qui tenait les flics à distance en leur jetant à peu près tous les projectiles qui leur passaient sous la main, bouteilles, chaises et autres mobiliers. Bon, malheureusement, les flics anti-émeutes sont rappliqués un peu plus vite que prévu et personne n'a pu s'évader, mais c'est en tout cas une chouette tentative et on espère qu'ils vont retenter ça.
Faut que ça se sache.
Bah, une annonce qui fait plaisir, une annonce de lutte. Il y a une marche européenne pour la liberté de circulation qui a lieu actuellement. Parce que bah, dans toute l'Europe, demandeurs d'asile, réfugiés et sans-papiers se battent, donc en cramant les centres de rétention, notamment en Italie, pour revoir toutes les destructions qu'il y a eu depuis 2011 en Italie. Ils revendiquent leurs droits, notamment au Royaume-Uni, dans les centres de rétention en ce moment. Il y a un an, la grève de la faim des sans-papiers lillois, la grève des travailleurs sans-papiers, les occupations du ministère de la régularisation de tous les sans-papiers en France. Les mouvements de demandeurs d'asile et de réfugiés en Allemagne, notamment à Berlin, cette place dans le quartier de Kreuzberg qui s'est fait expulser en avril, en Autriche et aux Pays-Bas, pour ne citer que ça. Et du coup, le 18 mai, une marche européenne pour la liberté de circulation et d'installation est partie de Kiel pour Strasbourg, pour relier les autres capitales de l'Union européenne, donc Luxembourg le 5 juin et Bruxelles du 20 au 28 juin. Et comme par hasard, il y a eu une réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures belges pendant la période de la marche. Donc la Belgique a informé que le contrôle des frontières sera réintroduit aux frontières intérieures belges pendant cette période. Les contrôles aux frontières sur les personnes susceptibles d'être effectués à tout poste frontalier et liaisons ferroviaires et à certains ports et aéroports pour montrer que les frontières intérieures sont toutes relatives. That boy you call is a diamond fella. All you little boys of a comedy of errors. You fellow, but your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. What are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You made some dream and your tunes ain't appealing. Alors il devait y avoir un petit agenda, mais comme aujourd'hui exceptionnellement c'est les bandes continues à Radio Canu, je parle un peu de la vie interne de la radio, et ben j'ai perdu les feuilles qui étaient sur la table que d'autres ont déplacées. Voilà, bon bah c'est la vie, c'est pas grave, mais il y a quand même une autre agenda.
Oui, simplement pour rappeler le débat proposé par le planning familial du Rhône, donc c'est mardi 3 juin. C'est à 19h30 à la MJC de Montplaisir, 25 avenue des Frères Lumière. Prostitution, quels enjeux pour les féministes et quelle réalité sur le terrain?
Et ben si on peut rajouter dans cet agenda que en ce moment Radio Canu, et tant qu'on est encore dans la vie interne de la radio, est à la recherche on cherche à acheter un local pour continuer à faire notre émission, parce que les loyers vont considérablement augmenté pour nous. Du coup, on cherche à acheter pour pérenniser notre situation. Et du coup, nous lançons un appel à dons. Et donc, un appel à votre générosité. Donc, si vous avez plein de pognon ou un tout petit peu de pognon, eh ben, vous pouvez toujours nous adresser un chèque qui sera déductible des impôts si vous avez la chance d'en payer.
L'ordre, c'est quoi, Radio Canu?
Ouais, ça, j'ai pas trop le détail, par contre, ni l'adresse.
Bah c'est plus sergent Blandan.
Non, ça vaut le coup. Hein.
Ouais, ça vaut le coup. En tout cas, ouais, vous pouvez venir. Passer à la radio.
Là, vous trouvez les appels à dons à la radio. Au pire,
c'est ça. Vous allez sur rebellion.info et il y a tout qui est expliqué dessus. Rebellion.info.
Et si vous aimez le Canu Info du mercredi, vous pouvez composer par SMS.
Canu Info du mercredi, je donne pour les bières.
Exactement. Vous pouvez adresser vos chèques au Canu Info du. Non, je rigole. Voilà, bon bah du coup on a fini pour cet agenda et on va passer à la météo.
Alors j'espère que tu vas nous annoncer du beau.
Eh ben j'ai de très bonnes nouvelles pour votre week-end prolongé. Le soleil va être de la partie. Alors si vous faites partie des gens qui ont posé un RTT, c'est tout bénef pour vous. Si vous faites le pont, c'est tout bénef pour vous. Si vous êtes au chômage ou RSA, très bon choix aussi. Bon, et si vous travaillez, bah vous aurez le droit de cracher sur tous les gens qui seront en terrasse en passant, qui seront sur votre chemin et qui seront en terrasse.
Eh ben j'aurais pas assez de salive pour faire ça. Hein.
Alors, demain, la matinée sera un peu voilée, mais le soleil fera vite son apparition dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 13 degrés le matin et 22 degrés l'après-midi. Vendredi, une très belle matinée en perspective, mais le soleil se voilera légèrement dans l'après-midi. Toutefois, les températures seront légèrement en hausse avec 14 degrés dans la matinée et 23 degrés l'après-midi. Samedi, le thermomètre continue de grimper. Le soleil s'installera durablement sur la journée. Le mercure grimpera jusqu'à 24 degrés dans la journée. Dimanche, eh ben, le soleil sera couvert la journée, mais les températures resteront stables. On aura entre 12 degrés et 23 degrés.
Lundi, s'il vous plaît, parce que moi, je travaille pas lundi.
Bah, lundi, il fallait pas poser ton RTT.
Merci.
Non, a priori, début de semaine prochaine, le ciel, il commence à se revoiler. Mais sur Lyon, hein. Alors, si tu pars, peut-être
un peu
tu pars
au sud. Moi.
Ah, bah, au sud, il fait toujours beau au sud.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, bon, bah, c'est la fin de ce Canu Info. Désolé de notre absence des deux dernières semaines. C'est pas souvent.
On va vous laisser avec Idée Noire, avec un petit peu de bande continue, puis Idée Noire.